Europe 1.
Salazar a été le chef du gouvernement portugais pendant près de 40 ans. Cet économiste austère a mis en place une dictature administrative unique qu'il a appelée l'Estado Novo, l'État Nouveau. Il est parvenu à protéger le Portugal de la Seconde Guerre mondiale, à redresser son économie, mais s'est heurté aux guerres de décolonisation. En refusant de perdre son empire ultramarin, Salazar a mécontenté l'armée et le peuple. Son régime s'effondre peu après son décès lors de la Révolution des œillets, une révolte sans mort, avec des fleurs à la boutonnière. Salazar, la dictature portugaise des professeurs, épisode 2. L'Estado Novo. Il n'existe qu'une seule photo officielle sur laquelle Salazar, le dictateur portugais, sourit. Elle a été prise à la fenêtre de son ministère en 1932, alors que le professeur de Coimbra est en train de fonder l'Estado Novo. Il faut que je vous lise le titre sur la page de une du journal qu'il a publié. Une photo historique, le premier sourire de Oliveira Salazar. Le dictateur des finances portugaises remercie les manifestations populaires depuis la fenêtre de son bureau. Le dictateur, dans son complet trois pièces bien coupées, appuyé sur la rambarde de son balcon, regarde l'objectif. Le photographe se tient sur le balcon d'à côté. En contrebas, on voit une place à demi pleine de monde. Le quadragénaire austère fait plutôt un demi-sourire. Son regard reste inquiet. Il ressemble un peu à un épervier, toujours sur le qui-vive. Le message de cette photo de propagande est clair. Salazar fonde l'Estado Novo avec la bénédiction du peuple, des élites conservatrices, des militaires et de l'Église, en d'autres termes, de presque tout le pays. Mais tout reste à faire. Pour qu'il puisse mener à bien sa politique, Salazar doit museler les oppositions. Je vous ai déjà raconté dans le premier épisode qu'il n'y avait plus de parti politique. La presse est sous le contrôle d'une censure que le NSDAP, le parti nazi en Allemagne qui arrive au pouvoir à la même époque, juge subtile. Pour Salazar, les journalistes et les militants peuvent exprimer tous leurs désaccords tant qu'ils ne mettent pas en danger les valeurs portugaises et le fonctionnement de l'État. Pour faire simple, ce sont les points de vue ultralibéraux, trop socialistes, trop démocratiques et communistes qui sont visés par la censure. Le peuple aussi est surveillé par une police politique dès 1933. La PVD, la police de vigilance et de défense de l'État, qui prendra le nom de PIDE en 1945, a pour mission d'expulser les opposants au régime et d'appliquer la censure. Dans les faits, ça veut dire que la police politique peut procéder à des arrestations préventives et mettre ceux qu'on appelle essentiellement « os comunistas », les communistes, en prison. Entre 1933 et 1945, la police emprisonne et condamne, via le tribunal spécial de Lisbonne, 13 806 personnes. Il n'y a généralement pas de condamnation à mort. Finalement, ces détentions sont assez marginales si elles sont rapportées à une population d'environ 7 224 000 personnes à cette époque. Mais la peur et la soumission sont là. Dans le moindre village, celui qui ose critiquer le régime ou remet en question l'autorité du prêtre de la paroisse est traité de communiste et menacé de délation. Cependant, en échange de sa docilité, le peuple a des gratifications. Salazar, qui est lui-même un pur produit de la méritocratie scolaire, veut que chaque petit Portugais puisse aller à l'école. Si à son avis l'université doit être réservée aux plus capables et devient encore plus élitiste qu'auparavant, chacun doit avoir accès à l'instruction pour avoir une chance de se distinguer. Il n'y aura donc pas une habitation située à plus de 2 km d'une école. Et c'est vrai, chaque petit village possède son propre établissement primaire. Ce pays de paysans illettrés accède massivement à l'éducation de base. Je vais vous raconter quelque chose de personnel. Bon, c'est pas dans mon habitude, mais ici, ça fait sens. Quand j'étais petite, j'adorais feuilleter le manuel de primaire portugaise de ma mère. Il datait des années 1960. Il y avait plein de dessins pastels qui représentaient des familles heureuses, des petits enfants adorables qui embrassaient leur père qui rentrait du travail et leur mère qui prenait bien soin d'eux. Toutes les disciplines étaient mélangées, ce qui donnait une impression de variété et l'envie de tourner la page. Il y avait des exercices de maths avec des jolies billes pour apprendre à compter, de l'orthographe avec des animaux, et entre tout ça, des leçons de morale civique et religieuse. La seule chose qui m'interrogeait était les pages de garde. Sur celles du début du livre, il y avait des petits garçons qui faisaient des activités de garçons. Ils bricolaient, ils se poursuivaient, Ils étudiaient, ils pêchaient, ils dessinaient. Et sur la page de garde à la fin du livre, il y avait les activités des petites filles. Elles jouaient à la poupée, à la maman, s'occupaient du linge, faisaient la cuisine, etc. C'était la seule chose qui me chiffonnait. Je trouvais le côté des garçons tellement plus marrant. Je réalise maintenant que moi, la petite écolière française biberonnée à l'école de la République, je ne comprenais pas du tout ce que je voyais. Je ne comprenais pas que ce joli manuel préparait tous les enfants portugais de l'Estado Novo à tenir un rôle bien déterminé dans la société et à faire leur les valeurs du salazarisme, Dieu, patrie, famille, et puis une famille bien traditionnelle. Mais pour les enfants, les manuels scolaires, ce n'était pas tout. Ils fréquentent aussi, de manière quasi obligatoire, la Mocidade, un mouvement proche du scoutisme encadré par l'État. La Mocidade permet de renforcer les sociabilités et de faciliter la cohésion de tous les membres de la société portugaise. C'est une prolongation de la famille. Salazar encourage toutes les formes de sociabilité populaire qui fédèrent les Portugais. Il fait bâtir dans de nombreuses villes et villages des maisons publiques où les gens peuvent se réunir pour pratiquer des activités comme les danses folkloriques. Mais ce sont des lieux où les ouvriers peuvent se réunir pour parler de l'amélioration de leurs conditions de travail, dans la mesure où ça ne déclenche aucun heurt ni aucune grève. En gros, une version allégée des syndicats est tolérée parce que le régime de Salazar est corporatiste. Le groupe y est important, mais l'ordre domine. Son slogan ? Tout pour la nation, rien contre la nation. En économie, le corporatisme encadré de loin par l'État empêche les situations de monopole qui détériorent le marché. Salazar ne veut ni des grands monopoles des puissances capitalistes, ni d'un monopole d'État comme chez les communistes. Il cherche la voie de l'équilibre entre ces deux extrêmes. Grâce à toutes ces mesures, l'identité portugaise est renforcée, l'économie de marché est régulée. Il faut maintenant développer le Portugal. Salazar lance une politique de grands travaux. Il étend le réseau routier et ferroviaire. C'est lui qui lance les travaux de l'immense pont suspendu qui enjambe le Tage, le fleuve qui traverse Lisbonne. C'est un ouvrage qui ressemble à s'y méprendre au pont emblématique de San Francisco. Il portera d'ailleurs le nom de pont Salazar, avant d'être rebaptisé le pont du 25 avril après la Révolution des œillets. Le dictateur bâtisseur est aussi soucieux de glorifier le Portugal à travers de nouveaux monuments. Il fait par exemple ériger près du port le monument aux découvertes qui représente, parmi d'autres figures marquantes, les explorateurs Vasco de Gama et Magellan. Salazar pense également à la monumentalité à hauteur d'enfant. Près de Coimbra, il ordonne l'ouverture d'un parc d'attractions baptisé le Portugal des Petits qui concentre tous les trésors de l'architecture portugaise, des châteaux médiévaux jusqu'à la maison traditionnelle rurale, et aucune de ces constructions ne fait plus de 2 ou 3 mètres de haut. Mais le cœur de la politique de Salazar, c'est l'économie, sa spécialité. Je vous disais dans le premier épisode que le Portugal n'avait pas su prendre le virage de la révolution industrielle et que le pays s'enfonçait dans la pauvreté suite à l'indépendance du Brésil. Pour assainir l'économie, il s'attelle donc à réduire la dette extérieure. En contrôlant personnellement toutes les dépenses de l'État, il y parvient puisque la dette extérieure passe de 44% du PIB en 1926 à 5% en 1940. L'escudo, la monnaie portugaise, devient une monnaie forte au cours stable. Ça permet d'attirer des capitaux étrangers et des investisseurs pour développer des usines. Ceux qui, a posteriori, critiquent le bilan économique de Salazar, surtout parmi les politiques de gauche, font preuve de mauvaise foi. Le Portugal du professeur de Coimbra n'est certes pas riche, mais il sort d'un mode de vie médiéval. Mais la vision politique réaliste et concrète de Salazar va se heurter au récif de l'histoire. La Seconde Guerre mondiale menace l'équilibre européen. Le dictateur garde en tête sa doctrine comme un cap pour diriger le pays. Dieu, patrie, famille, tout pour la nation, rien contre la nation. Le dictateur garde en tête sa doctrine comme cap pour diriger son pays. Dieu, patrie, famille, tout pour la nation, rien contre la nation. En suivant sa doctrine à la lettre, le professeur refuse d'engager son pays dans la guerre. Le Portugal restera neutre et mieux. Il s'entendra avec tout le monde parce que c'est dans son intérêt. Voilà pourquoi le Portugal exporte des denrées alimentaires pendant toute la guerre vers l'Allemagne, mais permet aussi à l'Angleterre d'utiliser ses installations portuaires aux Açores dans l'Atlantique. Il n'y a ici aucune duplicité, aucune sympathie, ni pour les nazis, ni pour les libéraux. Et je me permets d'insister là-dessus, tant c'est cohérent dans la pensée de Salazar. La seule chose qui compte, c'est sa nation. Salazar est aussi très prudent vis-à-vis de l'Espagne. Dès le début de la guerre civile en 1936, il a soutenu Franco, non par amitié fasciste, mais parce que les républicains communistes risquaient de relancer l'idée de l'union ibérique, c'est-à-dire la fusion entre le Portugal et l'Espagne, un projet qui aurait été néfaste au plus petit des deux pays. Et lorsque la Seconde Guerre mondiale commence, le dictateur s'impose sur la scène internationale comme un médiateur entre l'Espagne et les Alliés, notamment avec les Anglais dont les Portugais sont historiquement proches. Salazar devient ainsi un stratège diplomatique dont le seul but est de préserver la neutralité de la péninsule ibérique. La position du Portugal à l'extrême occident de l'Europe en fait un point de passage obligé pour fuir le vieux continent vers l'Amérique. Lisbonne devient l'une des plaques tournantes de la résistance et de l'espionnage. Même Jean Moulin et Saint-Exupéry y transitent. Mais pour arriver jusqu'à Lisbonne, il faut un visa accordé par les autorités portugaises. N'oublions jamais la personnalité de Salazar. C'est un intellectuel froid, un légaliste. Il n'est pas antisémite, et l'antisémitisme est d'ailleurs très marginal à cette époque dans le pays, pour ne pas dire anecdotique. Mais le dictateur ne veut pas pour autant ouvrir les vannes et accorder des visas à tour de bras pour fuir l'Europe, notamment aux Juifs, parce qu'il ne veut pas se fâcher ni avec l'Allemagne, ni avec l'Angleterre. Lorsqu'il apprend que le diplomate Aristide de Sousa Mendes, basé à Bordeaux, a mis en place une véritable usine à visa qui marche jour et nuit pour en accorder un maximum aux Juifs, il le démet de ses fonctions et lui inflige un procès devant une cour administrative. Ce qui embête le plus Salazar, c'est que les Anglais accusent Sousa Mendes de crimes pour le trafic de papiers internationaux dans lequel il avait fini par se lancer pour sauver des vies. En effet, certains immigrés devaient arriver en Angleterre avec des papiers tamponnés par le Portugal sans accord préalable des Britanniques. Sur l'intervention discrète du dictateur, le diplomate s'en tire avec la sanction la plus légère, mais sa carrière est brisée car il ne doit pas devenir un exemple d'insubordination. Il sera néanmoins récompensé plus tard par le titre de « Juste parmi les nations » et entrera au Panthéon portugais en 2021. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le Portugal ressemble à un Éden préservé de la guerre. Sans être puissant, il compte sur la scène internationale puisqu'il rejoint l'OTAN dès sa création en 1949. Le dictateur poursuit ses grands projets politiques, mais un nouveau remous de l'histoire va bousculer ses plans. Le monde d'après n'est pas le même. Les empires coloniaux vacillent, les peuples veulent leur indépendance et sont prêts à faire la guerre contre les colons. Mais les maigres richesses du Portugal reposent sur son empire colonial transformé en province portugaise ultramarine, et il est hors de question de les perdre. Salazar, pourtant si réaliste et pragmatique, pour une fois, ne comprend pas ce qui se joue. Il refuse de perdre les Indes portugaises, alors même que l'Angleterre accorde son indépendance à la majorité du pays. Ce bras de fer se solde par des conflits armés du côté de Goa qui ne deviendra un État indien qu'en 1987. Mais ce n'est pas en Inde que les conflits sont les plus sanglants. C'est en Afrique, en Guinée-Bissau, en Angola et au Mozambique. Salazar ne lâche rien, mais dans les années 1960-1970, les Portugais ne supportent plus d'aller verser leur sang en Afrique. Lorsque Salazar fait un AVC en 1968, à l'âge de 79 ans, il n'a toujours pas réglé la crise coloniale. Incapable de poursuivre sa tâche, il est aussitôt remplacé dans ses fonctions de président du Conseil des ministres par un de ses proches, Marcelo Caetano. Il meurt en 1970, en laissant l'Estado Novo à une sorte d'héritier, lui aussi professeur d'université. Caetano poursuit la politique salazariste. Mais attention, ce mot, ce sont nous, les historiens, qui l'utilisons a posteriori. Personne ne parle de salazarisme au temps de la dictature, car un tel terme renverrait à une forme de culte de la personne, ce que Salazar avait toujours refusé. Mais l'Estado Novo reposait tout entier sur Salazar, dont le plus grand échec est de ne pas avoir renouvelé les élites politiques du pays. Fatigué des guerres coloniales, c'est l'armée qui pilote le coup d'État du 25 avril 1974.
Il y a une grande confusion. Mais je crois quand même que le mouvement des forces armées a l'air de contrôler la situation.
Comment réagit la population?
Je crois qu'assez bien. C'est-à-dire, surtout, il y a une place très centrale à Lisbonne qui a été prise. Mais quand les soldats ont laissé la population entrer dans cette place, tout le monde a chanté l'hymne national et il y a une espèce de camaradage entre les soldats et le peuple.
Dans la capitale, on voit des chars, des hommes en armes et des taches rouges sur les chemises des manifestants. Mais ce n'est pas du sang. Ce sont seulement des œillets à leur boutonnière. Le sang n'a pas coulé. C'est une révolte tranquille. L'armée organise ensuite le retour d'une véritable démocratie et fonde la Troisième République.
C'était tout à l'heure au stade de Lisbonne, dans la périphérie de la capitale, près de l'aérodrome. Les meetings des partisans de Salazar ou de Caetano se tenaient là. Aujourd'hui, à la tribune, ils ont été remplacés par le leader socialiste Soares et le secrétaire général du Parti communiste portugais, Salvador Cunhal.
Depuis la révolution des œillets, l'héritage de Salazar est très contrasté au Portugal. Sa politique économique et sa politique extérieure ont été bonnes. Il a remis le Portugal sur la voie de sa grandeur passée, mais pour cela, il a fait usage de la police politique, de la censure, et il a réduit les libertés individuelles. C'est pour toutes ces raisons que le dictateur portugais est encore, pour une partie de sa nation, le plus grand homme du XXe siècle. Et au contraire, pour les Portugais de gauche, il est un monstre et un oppresseur. Au terme de ce récit, je dois avoir l'honnêteté de reconnaître que la vérité est entre les deux et qu'un dictateur aussi nuancé que lui est troublant à étudier. La plaque qui a été posée à l'entrée de la maison dans laquelle il est né résume assez bien ce personnage autoritaire, intelligent et d'une probité au-dessus de tout soupçon. Je vous la lis. Ici naquit le 28 avril 1889 le docteur Olivera Salazar, un homme qui a gouverné et n'a jamais rien volé. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Nicolas Gaspard. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Nathan Laporte et Marie Corpet. Et moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours en podcast sur votre appli favorite et tous les week-ends sur Europe 1 à 15h. À très vite.